CFM, le mag du pays Midi-Quercy.
Découvrez un pays d'art et de traditions populaires. Une faune sauvage, une flore remarquable, ainsi qu'une histoire et une architecture exceptionnelles. Des racines occitanes à l'écotourisme, un patrimoine culturel et naturel dans des paysages très diversifiés, Midi-Quercy, toute une histoire.
Un lundi sur deux à 12h et à 17h, rediffusé le samedi suivant à 18h, et bien sûr en podcast sur cfmradio.fr, dans l'onglet Les émissions, Midi-Quercy, toute une histoire.
Et dans Midi-Quercy, toute une histoire, nous avons déjà abordé l'histoire de la croûte terrestre, si on peut dire, puisqu'on a parlé des profondeurs avec de la spéléologie, on a parlé des paysages avec de la géologie, on a vu la proto-histoire, puis des premiers humains avec le travail d'Edmé Ladier autour des grottes au pied de Bruniquel et les gorges Aveyron qui, semble-t-il, étaient un lieu de passage du gibier. Donc forcément, les hommes préhistoriques chassaient là. Les abris n'étaient pas forcément leur habitat sédentaire, elle nous disait, c'était quasiment des cabanes de chasse. Bon. Et puis aujourd'hui, avec Pierre Pisani, chef du service archéologie à la communauté urbaine Toulouse Métropole, nous allons aborder, on va dire, les premières villes, les premières cités, on peut le dire, parce que avant notre territoire, il y avait des gens qui passaient, il y avait des gens qui envahissaient, qui raflaient. Hein, on parle des Ostrogoths, des Visigoths, enfin les peuples de l'Est, des barbares, comme on nous disait hein, dans notre histoire. Et puis nos ancêtres, les Gaulois. Alors racontez-moi cette histoire-là.
Alors déjà au niveau des Ostrogoths et des Visigoths, c'est beaucoup plus tard, c'est à partir du 5e siècle. Mais il est vrai que les premières traces de villes dans le pays Midi-Quercy apparaissent autour du 1er siècle après Jésus-Christ, au tournant de notre ère. La plus emblématique d'entre elles est sans doute Cosa, à cheval sur les communes d'Albias et de la Motte-Capdeville. Mais il en existe d'autres qu'on ne connaît pas très bien. Du côté de Bressol, alors on sort un peu du pays Midi-Quercy, mais à Bressol il existait aussi une ville qui s'appelait Finesse, sans doute Saint-Antonin, Nobleval, qui aussi était une zone de carrefour avec forcément un habitat aggloméré, et aussi Caussade, bien sûr, qui est aussi un lieu de passage avec un carrefour de voies terrestres.
Ah oui, alors à part Caussade, jusque-là, vous m'avez parlé de passage de rivière, pratiquement.
Alors, les voies de communication dans l'Antiquité, et depuis la nuit des temps, c'est essentiellement les rivières, puisque l'Aveyron, qui traverse tout le pays Midi-Quercy, est l'axe de communication majeur de ce territoire. L'Aveyron est navigable à partir des Grepelisses, on va dire, jusqu'à Laval, jusqu'à sa confluence avec le Tarn. Mais c'est vraiment la batellerie, et vraiment la voie de communication principale. Et une autre voie, qui est mentionnée par les textes au 3e siècle après Jésus-Christ, qui reliait Toulouse à Cahors, deux villes antiques de la région, via Cosa, fameuse Cosa, donc autour d'Albias et de la Motte-Capdeville.
Alors Cosa, on en sait des choses aujourd'hui parce que vous avez gratté. Hein, parce
que, on peut dire qu'on a gratté, c'est ça. Hein,
finalement, heureusement qu'il y a des grands travaux. On n'en saurait peut-être rien.
Alors, sans les grands travaux, et en particulier l'autoroute A20, qui a été faite maintenant il y a une quinzaine d'années, on ne savait pratiquement rien de ce territoire. Mais les travaux ont permis de découvrir une partie de Cosa. Et au niveau du bois de Dour, de la station Total, pour ne pas la nommer, au niveau de l'autoroute A20, a été découverte une ferme gauloise et romaine. Donc, on a à peu près les deux types de fixation de population à l'époque. La villa, c'est-à-dire la ferme, au niveau du bois de Dour, et la ville, l'agglomération. On ne va pas parler d'une très très grande ville, mais Cosa est déjà une ville dès le 1er siècle de notre ère.
Alors il faut faire la guerre tout de suite aux clichés que nous ont amené la bande dessinée, voire peut-être l'histoire en raccourci, Vercingétorix, et puis tout de suite après les Gallo-Romains avec, mon Dieu, qu'on les admire, ils ont construit des aqueducs, ils ont laissé des traces en pierre, mais avant ça, on avait déjà des villes, vous le dites vous-même.
Alors je vais peut-être vous surprendre, mais des Romains dans la région, même après la conquête de César, il y en a très très peu. Ce sont avant tout des Gaulois qui habitent avant et après la conquête, et ça continue à fonctionner très très bien de part et d'autre de la conquête de Jules César en 51. D'ailleurs, un des derniers hauts lieux d'une dernière bataille de la guerre des Gaules, faite par César, c'est Uxelodunum, au nord de Cosa, au nord de l'actuel département du Lot, où c'est vraiment la dernière bataille. Et à partir de 51 avant Jésus-Christ, cette date-là, bien le territoire de Cosa et Midi-Quercy rentre dans le giron romain, mais la population est avant tout gauloise et se romanise, c'est-à-dire qu'elle adopte les us et coutumes des Romains, mais elle reste avant tout gauloise. Très très peu de Romains sont venus habiter dans la région.
Les us et coutumes, ça veut dire que le contact des deux civilisations a amené les avantages des uns en architecture, peut-être, en aqueduc, en
bateau. Voilà, c'est ce qu'on trouve au niveau des fouilles, c'est avant tout les traces matérielles et tout ce qui est technique de construction est un apport indéniable des Romains, avec l'utilisation de la chaux en particulier, et aussi tout ce qui est, on va dire, luxe au niveau de l'habitat, mosaïque, thermes et tout ce qu'on peut imaginer de luxueux qu'on peut trouver aussi à Pompéi, d'une moindre mesure.
Bon, Pierre Pisani, évidemment, vous êtes là, et si je ne vous ai pas posé cette question, enfin, on m'engueulerait, hein. Uxelodunum, c'était où?
Ah! Alors, je vais faire attention à ce que je vais dire.
Les experts sont formels ou...
Les experts sont formels. Je n'en suis pas un de la question, mais je sais que les arguments maintenant penchent en faveur du Puy du Solu, donc au nord du département du Lot, n'en déplaise à nos amis de Ussel ou de Capdenac. Non, là, je pense qu'on peut dire. Et Napoléon III l'avait dit le premier, Uxelodunum, c'est bien le Puy du Solu au nord, sur le long de la Dordogne et au nord du département du Lot.
Fin du fantasme du camp de Caïlus.
Fin aussi du fantasme du camp de Caïlus. Désolé.
Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi.
Vu le nombre de pointes de flèches et d'armes romaines qui ont été trouvées au Puy du Solu, là, je pense qu'il n'y a plus aucun doute à avoir. Et vraiment, le texte laissé par César de la guerre des Gaules décrit très très bien ce site-là. Et les récentes fouilles qui ont été menées par un de mes collègues apportent des preuves indéniables.
Même si on a quelques pointes de flèches un petit peu partout, forcément.
Oui, forcément.
Forcément. Bon, alors, les villes. C'est ce qui nous intéresse, finalement. Cosa. Quoi, le nord de Cosse, la Motte Cap de Ville, pourquoi ça se pérennise pas une ville? D'abord, alors, pourquoi on construit une ville?
Pourquoi on construit une ville et pourquoi on la construit à Cosse, hein, puisque Cosse, enfin Cosa a donné Cosse. Enfin, on devrait dire d'ailleurs Cosa, puisque en latin, le S se prononce comme en français. Et nous avons découvert une plaque épigraphique, donc c'est une plaque en marbre avec des inscriptions dessus, sur le site de Cosse, où le nom de Cosa apparaît avec deux S. Donc là, il n'y a aucun doute à avoir aussi sur le nom de cette ville. Donc pourquoi là? Mais avant tout parce que c'est un port, et ça se situe de part et d'autre de l'Aveyron, qui est navigable à partir de cet endroit-là. Et c'est aussi une halte sur la voie de Toulouse à Cahors. Donc on est sur une zone de transbordement, tout simplement, où la route croise la voie navigable, et tout ça, bien sûr, crée une zone portuaire. Alors, toute petite, bien sûr, pour l'époque, mais c'est déjà une des principales villes de la cité des Cadurques.
Ce sont les échanges commerciaux qui déterminent l'emplacement des villes, pratiquement.
Comme de tout temps, c'est ça.
Alors, pourquoi ça meurt?
Alors, ça meurt parce que l'Empire va avoir de grosses difficultés à la fin du IVe siècle. Le pouvoir administratif, puisque dès l'époque romaine, il y a un pouvoir administratif fort, avec une administration très très forte, avec un conseil municipal, l'ancêtre de nos conseils municipaux, à Cosa. Donc, tout ça va péricliter de sa belle mort, tout doucement. Il y a même l'arrivée des invasions barbares à partir de 406 après Jésus-Christ qui vont accélérer quelque peu les choses. Mais la civilisation s'éteint, tout simplement, et on est passé à autre chose. Donc la civilisation urbaine, puisque la civilisation antique, c'est avant tout une civilisation urbaine de la ville, mais on revient sur des types d'occupation plus rurales, comme ça l'était à l'époque gauloise, et comme ça l'a été après au Moyen-Âge.
Est-ce que, quelque part, des militaires, comme Jules César, pourraient pas dire que ces civilisations-là n'assumaient pas un pouvoir avec une armée de défense, c'est-à-dire une entente sous une autorité? Bon, on n'est pas dans l'architecture fortifiée encore médiévale, mais...
Non, la ville est ouverte, à cause il n'y a pas de trans-rempart, il n'y a aucun signe de défense, mais c'est vraiment juste la ville s'est éteinte de sa belle mort.
En fait, jusque-là, on vivait en paix avant les barbares.
On vivait en paix.
Les Romains et les barbares.
Oui, il y a quelques crises au IIIe siècle, une forte crise due à une forte crise économique. Mais autrement, tout ça, ça vit en paix, il y a très très peu d'invasions, très très peu de révoltes du temps des Romains.
Alors, ce qu'on trouve, parce que vous êtes archéologue, ce qu'on trouve aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous dit de la richesse, du mode de vie, de la représentation qu'on a quand on bâtit? Parce que c'est de là que les villas.
Les fameuses villas. Alors, ce qu'il faut dire avant tout, c'est que pour l'Antiquité, contrairement au Moyen-Âge, on a très très peu de sources écrites, très très peu de textes. Donc, on s'en réfère obligatoirement à l'archéologie. Et c'est grâce aux différentes opérations archéologiques qu'on arrive à se faire une idée de la façon de vivre de ces gens entre le 1er et le 4e siècle. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve quand on fait nos trous, nos fouilles? Ce sont avant tout des ruines, des murs, à Cosa en particulier, avec des murs et des fondations en pierre et liées à la chaux, fait au mortier de chaux. Donc, tout ça, on n'a aucun doute sur le fait que ce soit romain. On trouve des mosaïques. Il y a quelques mosaïques qui sont apparues. On trouve, et qui sont connues, on trouve aussi des rues. Des vestiges de rues. Alors, rien à voir avec les rues de Pompéi, avec des grands dallages en pierre. Là, on est sur des rues en gravier, qui ressemblent plus à nos chemins, aux actuels chemins, que les grandes routes actuelles. Et des bâtiments publics regroupés, sans doute autour d'un forum. Donc, on a des théâtres. Il y a un théâtre qui est mentionné sur Cos, qu'on n'a malheureusement pas retrouvé. Il y a un aqueduc, ça, on en est sûr, puisque la plaque épigraphique que j'évoquais tout à l'heure mentionne un aqueduc. À Cosa, donc il n'y a aucun doute. Et aussi, sans doute, le conseil municipal, ce qu'on appelle la curie, où les décurions, les conseillers municipaux de l'époque, se réunissaient.
Non, mais ça veut dire qu'il y a un urbanisme pensé pour amener de l'eau.
Il y a un urbanisme qui est pensé. C'est un modèle qui est adopté d'un modèle gréco-romain, avec des rues qui se coupent à angle droit, une ville coloniale, comme on en connaît beaucoup dans le monde. New York est peut-être la plus emblématique, mais dans nos régions ici, on peut penser aux Bastides, qui ont aussi des plans totalement réguliers, et qui sont des fondations pour fixer des populations, et qui ont été voulues dans l'Antiquité par le pouvoir impérial romain, et au Moyen-Âge par les seigneurs locaux.
Alors comment on vivait là? Il y avait des commerçants, comme dans n'importe quelle ville, les paysans venaient sur un marché.
Voilà, alors c'est aussi une zone où il y a des ouvriers qui vont travailler dans les villas alentours, puisqu'autour de Cosa, on connaît plusieurs grosses villas, donc il y a des sièges d'exploitation agricole. Donc toutes ces personnes, enfin une partie des personnes allaient travailler dans les champs, dans la journée. Après, il y a des commerçants, forcément, puisqu'on est sur un port. Et les traces ont été trouvées sur les fouilles avec de nombreux amphores, des contenants qui permettaient de transporter le vin et les graines notamment. Et il y a aussi des riches aristocrates qui habitent dans cette ville. Alors il ne faut pas imaginer une ville très très densément occupée, puisque chaque fois qu'on a réalisé des sondages ou des fouilles sur le lieu, on n'a pas des bâtiments alignés régulièrement. Ce sont plus des noyaux par-ci par-là qui se fixent le long des rues.
Et est-ce qu'on est capable de faire une représentation en élévation de comment on a occupé cet espace-là au bord de l'eau?
Alors, au vu des techniques de construction qu'on a pu observer sur les ruines, oui. Déjà, tous les murs sont à pans de bois, avec une fondation en pierre, deux ou trois assises en moellon calcaire, et ensuite tout le reste c'est du pan de bois, comme on le connaît beaucoup dans la région aussi. Les rues, mais des rues avec du gravier, tout simplement. Des maisons avec un rez-de-chaussée et un étage, probablement, pour les plus riches. Et des maisons et une occupation, comme je le disais tout à l'heure, assez aérée, avec des maisons, des hangars, forcément aussi, puisqu'on est sur un port. Et la zone portuaire, à proprement parler, au bord du fleuve. Enfin, de la rivière, pardon.
Et oui, la rivière. Bon, en même temps, le fleuve, tant qu'on ne savait pas que c'était la Garonne plus long.
Pour l'époque, je ne pense pas que c'était un grave problème.
Oui, voilà. Les commerces qui s'échangeaient, c'était avec les autres grands bourgs, ou par exemple les traces d'amphores, on peut trouver des traces de potiers de très loin?
Alors on trouve, alors ça c'est intéressant parce qu'au niveau des mobiliers, donc des découvertes archéologiques, on trouve beaucoup de céramiques qui ne sont pas produites sur le lieu de Cosa, donc qui sont importées ou en transit, et en particulier de deux lieux de production connus dans la région, qui sont situés pour l'un dans le Tarn, à Montans, donc ces céramiques caractéristiques rouges et brillantes, et l'autre à Millau, à la Groffe Zinc, dans le sud d'Aveyron. Une source cite les Cadurques, donc la région de Cosa, c'est Pline l'Ancien, qui est un militaire romain et qui a décrit toutes les provinces de l'Empire romain, qui mentionne le lin de la cité des Cadurques. Donc le lin, donc le tissu du lin est renommé à Rome à l'époque, au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc on a un artisanat important, avec des tisserands Cadurques dans tout ce secteur-là, et des échanges, alors du vin importé d'Italie ou du vin qui est exporté de la région, déjà à l'époque, puisqu'il y a pas mal d'amphores et de vestiges de traces de tonneaux, de contenants, et céramique, lampe à huile, et bien sûr les monnaies, monnaies en bronze ou en argent qui viennent des quatre coins de l'Empire.
Alors ça, c'est des choses qui laissent des traces parce que c'est du dur, mais est-ce qu'on est capable de retrouver, je sais pas moi, les productions agricoles de l'époque?
Alors oui, on en est capable quand on fait des études un peu plus poussées, après les fouilles, par des spécialistes et des scientifiques, on peut retrouver des graines, donc en particulier des céréales, des fèves, des lentilles qui étaient consommées à l'époque, alors pas forcément exportées, mais consommées sur place, des pépins de raisin, des noyaux de fruits. En l'occurrence, on a trouvé sur le site de Causa un noyau de pêche, de l'enceinte de la pêche. Donc déjà, il y avait des cultures fruitières dans le secteur.
Je sais que vous êtes passionné par Causa, mais en dehors de Causa, sur le territoire de Pays Midi-Quercy, où est-ce qu'il y a des traces d'habitat qui montrent qu'il y a eu des agglomérations, en réalité, avec donc du coup des chemins pour y aller?
Alors après, en dehors de Causa, que des indices, très peu de vestiges concrets trouvés. Des villas, oui, ça on en connaît des dizaines dans le pays Midi-Quercy, mais des agglomérations, grosse suspicion à Causa, la bien nommée, qui se situait au carrefour de deux voies. On connaît aussi, je vous ai dit, Bressol, pas très loin du pays Midi-Quercy. Saint-Antonin-Nobleval. On a évoqué Caylus aussi, une époque.
Quand on parle, de Bressol, ça veut dire qu'il n'y a pas de Montauban, là, qui tienne.
Ah non, Montauban n'existe pas à l'époque. Montauban apparaîtra bien plus tard. Sur Bressol, on est vraiment aussi sur un port, le long du Tarn, ce coup-ci.
En fait, on est plus dans le port, parce que c'est navigable, que dans la traversée.
C'est ça.
Que dans le bac ou
c'est l'été. C'est ça. On est dans la zone de rencontre entre la rivière et la voie terrestre.
Et donc, on peut imaginer que Saint-Antonin, il n'y avait pas les chaussées, il n'y avait pas les moulins, on pouvait encore peut-être naviguer.
On peut imaginer qu'on pouvait naviguer, alors pas forcément.
Chemin de halage.
Voilà, chemin de halage ou des transports sur des rondins de bois, tout simplement. Pas de barque, mais des rondins de bois.
Alors, je vous ai interrompu, vous disiez peut-être Caylus.
Alors, à la fin du 19e siècle, il y aurait eu des vestiges de découvertes sur le village de Caylus, mais on n'a pas vraiment d'indices, et depuis, il y a eu très peu de travaux pour dire qu'il y avait une occupation gallo-romaine sur la zone de Caylus. Peut-être pas une ville, comme on l'entend à Causa, mais peut-être tout simplement une villa, une ferme dans le secteur, à vocation agropastorale avec les Causses alentours.
Et alors, la civilisation gréco-romaine, vous dites qu'il y a eu très peu de Romains, donc l'idée de Astérix avec des garnisons romaines pour maintenir l'ordre, donc des oppidums qui sont tenus. On nous dit toujours que les sentiers des Gaulois, c'était à mi-coteau, parce que les crêtes étaient tenues par les Romains, les vallées aussi. C'est des conneries, ça.
Des conneries, pas forcément, mais dans la région, oui, tout ça, ça n'a pas existé. Ça n'a jamais existé. Avant la conquête romaine, on connaît des places fortes, ce qu'on appelle les oppidums. Donc là où les Gaulois habitaient, c'était les premières agglomérations. Donc on en connaît à la Tanguine, par exemple, sur la commune de Caussade. Probablement Montalza aussi, qui est un magnifique belvédère pour la région, et Causa, sur les contreforts des coteaux molassiques, on a des occupations gauloises au-dessus de Causse.
Est-ce que la christianisation de toute cette période fait qu'on a construit des églises, par exemple, sur des endroits qui étaient vraisemblablement déjà vénérés, quelque part, et du coup, on n'a plus de traces, parce que même les fondations sont complètement dessous des églises romanes.
C'est ça. Alors, sur Causse, on connaît trois églises paroissiales. Il y a mention de trois paroisses au début du Moyen-Âge. Donc, deux en rive gauche et une à Causse, actuelle, puisqu'il y a encore une église et une paroisse sur cette commune. Donc, la christianisation, très peu de traces matérielles, malheureusement, puisque la plupart des églises ont été détruites ou abandonnées, ou détruites durant la guerre de religion. Je pense à Sainte-Raphine à Causse, ou après reconstruites avec des églises plus récentes.
Vous me parlez de Claus à Varin.
Alors,
de
Varin.
Untesaco.
Alors, Untesaco, c'est le long de l'Aveyron, toujours pareil, juste avant d'arriver à Varin. Et c'est un lieu dit où ont eu lieu des fouilles il y a une dizaine d'années maintenant, et qui ont révélé les traces d'une villa, d'une ferme gauloise du 2e siècle avant Jésus-Christ, et d'une villa romaine. Donc, on continue. Les modes de construction changent, mais on est toujours sur le modèle d'une ferme entre les Gaulois qui continuent à habiter sur les lieux. Donc, ferme très petite, petit siège d'une exploitation installée dans un petit méandre de l'Aveyron où les terres pouvaient être cultivées et étaient plus ou moins fertiles.
Alors, Pierre Pisani, vous êtes chef d'un service archéologie. Ça veut dire que vous avez, qui vous remonte des informations dès que quelqu'un déclare avoir trouvé, mobilisé. Et puis, au petit bonheur, la chance, on peut cadastrer l'occupation à cette période qui vous intéresse, la période antique?
Alors oui, beaucoup d'informations nous remontent, beaucoup moins maintenant depuis que je suis à Toulouse, mais il y a encore quelques années, j'étais un peu le référent sur le secteur de la vallée de l'Allère et de la vallée de l'Aveyron. Donc oui, on connaît des cadastrations à l'époque, donc des mises en valeur de terroirs, en particulier tout ce qui concerne la vallée de l'Allère, où des limites parcellaires ont été retrouvées lors de la création de l'autoroute A20.
Des limites parcellaires.
Oui, des limites parcellaires. On avait une cadastration qui avait été mise en place dès l'arrivée des Romains. Alors, pas pour faire joli dans le paysage. Bon, ça révèle d'abord que le paysage, enfin, le terroir est mis en valeur, donc il est cultivé, puisqu'on délimite les parcelles. Et ça signifie aussi, et ça ne va peut-être pas plaire à beaucoup d'entre nous, mais ça signifie aussi qu'un cadastre, c'est avant tout à but fiscal. C'est pour payer de l'impôt foncier sur ces parties-là. Et ça, les Romains savaient très, très bien le faire. Malheur aux vaincus.
Eh oui, la terre produit, il faut qu'elle rapporte aussi à ceux qui ont le pouvoir. Bon, et vous m'avez dit un petit peu la polyculture qu'on y trouvait, mais la taille des exploitations, il y avait déjà quelqu'un qui possédait la terre et des gens qui travaillaient dessus.
C'est ça, alors il y a un siège d'exploitation qu'on appelle la villa, pour en parler, qui est tenu par un aristocrate et un riche propriétaire foncier.
Qui vivait pas forcément là, d'ailleurs.
Qui vivait pas forcément là toute l'année, mais c'est quand même c'est de là qu'il tire toutes ses richesses. Donc c'est quand même le siège, c'est sa résidence principale, mais il peut très bien vivre dans sa villa une partie de l'année et l'autre partie à Cosa à faire des affaires. Et on a aussi alors ces grands sièges d'exploitation où on rencontre tout le luxe, mosaïque, terme, peinture murale contre les murs, tout ce qu'on peut imaginer comme luxe pour l'époque. Et à côté de ça, alors là ce sont des sièges qui peuvent faire des exploitations qui peuvent faire entre 400 et 500 hectares sans aucun problème, ça dépend les terroirs, sans doute beaucoup plus sur l'Écosse hein, puisque les terrains sont moins fertiles, mais on a aussi des petites fermes régies comme aujourd'hui par des petits exploitants qui dépendent tout de même de ce grand propriétaire foncier sous forme de fermage ou de métayage.
Est-ce qu'on peut imaginer en généalogie retrouver les grands propriétaires terriens de la période antique qui ont donné naissance à des féodalités?
On n'en a pas la preuve, hein, parce qu'il y a quand même un petit hiatus chronologique entre le 5e et le 8e, 9e siècle, hein, puisque là, il n'y a plus aucune source. Mais il y a des noms de villages ou de lieux-dits. En général, quand un toponyme se termine en ac ou en an, il y en a beaucoup dans la région, hein, AC ou AN, en fin de terminaison. Là, on peut dire qu'on a une origine gallo-romaine et gauloise de l'habitant. On peut citer Saint-Pierre de Millac, il y en a plein.
Vous êtes un spécialiste d'archéologie et donc de l'histoire là de l'occupation et des migrations qui ont formé notre territoire. La question qui vous paraît la plus importante et que j'ai oublié de vous poser.
Peut-être qui a organisé la mise en place de ces territoires? Ben c'est avant tout voulu, après la conquête par César, c'est ses successeurs, et en l'occurrence l'empereur Auguste, qui a organisé les territoires, et en Midi-Quercy, alors comme les actuels départements, et il y a deux grands départements de l'Antiquité dans la région, que sont les Cadurques, le peuple des Cadurques, avec Cahors comme capitale, et les Rutènes, avec Rodez comme capitale, et la limite de ces deux cités, ça s'appelait des cités à l'époque, ben c'est la vallée de la Vère, à côté de Bonniquel, et on coupe vallée de l'Aveyron et remonte vers le nord, vallée de la Bonnette, où là on est sûr qu'il y avait vraiment la limite, que le pays Midi-Quercy était coupé en deux entités dans l'Antiquité, Rutène à l'est et Cadurque jusqu'à Montauban et la vallée du Tarn.
Et après, la Garonne?
Alors Garonne, les Tolosates au sud, avec comme capitale Toulouse. À l'ouest, les Nitiobroges, le peuple des Nitiobroges avec Agen comme capitale. Et après, les Lactorates avec Lectoure comme capitale aussi.
Et tous ces gens-là commerçaient?
Tous ces gens-là commercent, et tous ces gens-là, dans l'Antiquité, ne se revendiquent pas comme peuple gaulois, mais avant tout comme appartenant à la tribu des Rutènes, des Cadurques, des Nitiobroges, des Tolosates. On n'est pas gaulois ni romain, on est Nitiobroges, Rutènes ou Cadurques.
On est du pays?
On est du pays avant tout. C'est pour ça qu'il n'y en a pas romain et gaulois, ce sont des gaulois à 95%.
Mais on est du pays, mais on n'est pas forcément de la tribu.
Alors, on n'est pas forcément de la tribu. Alors, c'est ce qu'on appelle les étrangers à l'époque et les barbares. Mais le barbare au sens noble du terme. Et, mais ces gens-là n'ont aucun droit politique. Ils peuvent habiter dans la région, mais ils peuvent payer leurs impôts. Mais en revanche, ils n'ont pas le droit de vote et ne peuvent pas participer à la vie politique de l'époque.
C'est très bien organisé.
C'est très, très bien organisé. Je vous rappelle juste que notre civilisation actuelle est basée un peu sur l'héritage gallo-romain, on va dire.
Mais ce n'était pas légiféré, on n'a pas trouvé de texte.
On a très très peu de textes sur ces choses-là. Et sur la région, on est très très pauvre. Juste quelques allusions indirectes, Pline, un géographe qui cite la région, mais très très peu de mentions écrites. D'où l'intérêt d'avoir trouvé la plaque épigraphique à Cosa, avec juste 5 lignes en latin. Malheureusement, il manque une bonne partie de ce texte. Mais on a l'essentiel, le nom de l'agglomération, Cosa, son statut, qui est un vicus, un village, et qui a une personne qui a payé un aqueduc dans la ville.
Alors, plus que les historiens, qui, eux, ont une ribambelle de textes dans toutes les langues, les archéologues, ils ont tout l'avenir devant eux, parce que c'est demain qu'on va trouver de quoi expliquer le passé.
Voilà, ce qui est passionnant dans l'archéologie, et ce qui est aussi qui nous pose pas mal de problèmes quand on travaille en archéologie, c'est que tout ce que je viens de vous dire, demain, peut être démenti par un nouveau chantier, avec de nouveaux résultats, mais bon, ça, c'est la science qui avance, et c'est une bonne chose.
Vous reviendrez.
Avec plaisir.
Pierre Pisani, chef du service archéologie de la communauté urbaine Toulouse Métropole, je vous remercie. Dans l'émission Toute une histoire du Pays Midi-Quercy, je vous remercie.
Avec plaisir.
CFM, le mag du Pays Midi-Quercy.
Découvrez un pays d'art et de tradition populaire. Une faune sauvage, une flore remarquable, ainsi qu'une histoire et une architecture exceptionnelles. Des racines occitanes à l'écotourisme, un patrimoine culturel et naturel dans des paysages très diversifiés, Midi-Quercy, toute une histoire.
Un lundi sur deux à 12h et à 17h, rediffusé le samedi suivant à 18h, et bien sûr en podcast sur cfmradio.fr, dans l'onglet Les émissions. Midi-Quercy, toute une histoire.